Moi, quand j'étais gamin, quand j'étais tout petit, on nous apprenait que, on nous apprenait, enfin, le prof d'histoire, très tôt, nous disait, les Gaulois, ils avaient peur que d'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Et ça faisait marrer tout le monde. Et moi, je me disais toujours, bah ouais, mais moi, le ciel m'est tombé sur la tête. Le ciel m'était tombé sur la tête. Je me souviens très bien, quand j'entendais cette phrase, ça faisait marrer les enfants, mes copains. Et moi, je me disais, le ciel m'est tombé sur la tête. Le ciel social, affectif, partout, quoi. Aujourd'hui, c'est différent. On a conscience de cette partie de la société qui est à la limite, à la frange, à la marge. À l'époque, quand tu étais dans cet espace social-là, tu étais nulle part. Tu étais nulle part. C'est-à-dire que n'y avait pas de place pour toi, quoi. Pas de place pour toi. C'était ou tu n'existais pas socialement, ou tu prenais place avec les autres. Mes copains, dont les parents étaient dans des organisations politiques, syndicales, ou qui avaient au moins un mode de vie ouvrier, ben moi j'en étais exclu. J'en étais exclu parce que ma mère faisait des scandales, parce que mon père, hein, et donc j'en étais exclu. Donc ce qui m'a permis de tenir, je crois, c'est d'abord l'école. Tout simplement parce que c'était le seul lieu où je me sentais tranquille, protégé. C'était un lieu de protection pour moi, vraiment. Et j'y restais le plus longtemps possible, à l'étude, etc. Bon, et puis, bah, très tôt, comme j'étais dans cette position, je crois que quand j'ai découvert ce qu'on appelle, 30 ans après, j'ai découvert ça, le regard sociologique, je me suis aperçu que mon goût pour le regard sociologique, il venait de là. C'est-à-dire que, comme j'étais étranger au monde, ben, la seule façon que j'avais pour accéder au monde, c'est-à-dire connaître les codes qui me permettaient de communiquer avec les uns et les autres, avec les institutions, avec l'autorité, je ne savais pas ce que c'était l'autorité, moi, je ne savais pas ce que c'était, avec le monde organisé, on va dire, ben, c'était l'observation. Il fallait que j'observe pour comprendre ce qui permettait de vivre avec les autres, de faire société, de trouver une place. Et donc ça a commencé comme ça. Voilà, ça a commencé comme ça. Et je crois que très, très jeune, sans connaître bien sûr le mot de sociologie, j'avais un regard, ouais, j'observais, quoi. J'observais beaucoup pour comprendre. Pour comprendre ce qui se passait. Alors, c'était une observation qui se traduisait par une extrême vigilance. Je raconte dans le livre La balle aux prisonniers, par exemple. Moi, je n'étais jamais pris dans la balle aux prisonniers, parce que j'étais tellement vigilant que personne n'arrivait à me toucher avec le ballon. Mais du coup, je ne jouais pas. Je ne jouais pas. Le jeu m'était interdit parce que je confondais le jeu avec la nécessité d'échapper au destin, quoi. Et donc, voilà, quoi, ça me donnait des compétences, une compétence très particulière, cette espèce d'empathie obligée et d'extrême vigilance, mais en même temps, ça m'empêchait d'être, disons, tranquillement socialisé. Donc, on apprend à vivre avec des règles floues. Réussir à exister dans les interstices et s'y balader de façon suffisamment opportuniste pour avancer. C'est pas une fuite. C'est pas une fuite. C'est avancer un petit peu comme comment dire ça, comme un crabe ou un chien de chasse. Tu vois, un chien de chasse, il fait des zigzags. Et c'est superbe à voir. C'est superbe à voir. Moi, j'ai un chien qui va pas à la chasse, mais à l'origine, c'est un chien de chasse. Et le regarder sur une trace d'animal, mais c'est juste merveilleux, quoi, parce que les chasseurs, eux, ils se réunissent avec les machins, ils se mettent à l'endroit. Lui, il suit comme ça. Bon. Et il y a un plaisir de faire les zigzags, de lever le nez. Quand on vient un peu de nulle part comme ça, on ne peut pas faire confiance au mode d'emploi qu'on nous transmet. Quand tu as appris à vivre avec les autres sans aucun capital, quand je dis capital, c'est capital social, capital culturel, capital économique, bien sûr. Tu ne sais pas t'opposer aux autres. Il faut retourner la table, mais sans le dire. Parce que si tu le dis, tu rentres dans la négociation. Et la négociation, ça suppose des alliés. Jusqu'à la fin de ma jeunesse, je n'ai jamais renoncé à cette dualité, en fait. C'est-à-dire être un bon gars, et puis en même temps, et respecter les institutions du plus profond de mon cœur, et en même temps cette nécessité de transgresser les règles pour arriver à faire société, à trouver une place avec les autres. La question de l'étranger m'a passionné. Alors j'ai pas pu en parler tout de suite parce que, je veux dire, académiquement parlant, c'est une question assez complexe, qui est pas traitée, mal traitée, pour une raison absolument centrale, c'est qu'on considère que l'étranger, on considère uniquement que l'étranger, c'est celui qui vient d'ailleurs. Alors que l'étranger, c'est celui qui vient d'ailleurs, et dans mon esprit, et je m'appuie là-dessus sur les travaux de Simmel, l'étranger, c'est celui qui vient d'ailleurs, mais qui ne s'est jamais complètement posé autre part. C'est-à-dire que l'étranger, c'est celui qui est dans l'entre-deux. C'est pas celui qui vient de A et qui s'est installé en B. Hein. De la même manière, l'étranger, c'est pas celui qui participe d'une existence minoritaire communautaire. L'étranger, c'est celui qui est minoritaire, mais qui rompt avec un système d'appartenance qui lui permet de se socialiser dans une minorité. L'étranger ou le cosmopolite, c'est pas un terme qu'il emploie, mais qui se rapproche de son idée, c'est celui qui mobilise beaucoup de distance parce qu'il est à l'écart des normes, il n'est pas né dans ces normes-là, et donc de grande proximité parce que pour vivre avec ce monde qu'il ne connaît pas, il est absolument obligé de les décoder beaucoup plus finement que ceux qui sont natifs. Et donc c'est cette position-là qui est quand même très inconfortable, hein, il faut bien comprendre, très inconfortable, qui m'a passionné. Ce sont des gens qui sont ni ici ni ailleurs. Et ça leur donne un très fort potentiel entrepreneurial. Ce que j'ai découvert, surtout, c'est les autres, quoi. C'est qu'en fait, plus j'avançais dans ma vie, plus d'enfants, d'adolescents et de jeunes hommes, plus je m'apercevais que j'étais pas tout seul, que je pouvais créer des liens. Parce que quand tu es à l'extérieur, c'est rarement les autres qui viennent créer des liens avec toi, ou alors c'est des gens charitables, bon, c'est juste insupportable. Et par contre, y a des gens qui que j'appelle les fées, F-E-E-S dans mon bouquin, là, sans classe ni place. Les fées, c'est-à-dire des gens qui réenchantaient mon monde. Hein, les sociologues expliquent qu'il faut désenchanter le monde pour échapper aux représentations fausses que les dominants nous inculquent. Et moi, ce dont j'avais besoin, c'était que le monde soit réenchanté. Moi, je voyais bien que je n'avais pas été dans la reproduction. Et ce qui m'intéressait, c'était justement ce qui permet d'échapper à la reproduction. C'est important. Moi, j'ai constaté que je me rapprochais toujours des fêlés. Des fêlés, ES ou EES, c'est-à-dire des gens qui avaient une fêlure suffisante pour que elles aient besoin de regarder le monde sérieusement, de l'interpréter et de l'analyser le plus librement possible pour essayer de comprendre comment les morceaux dont elles étaient faites pouvaient se réemboîter. Et bien évidemment, ça permet de comprendre cet accès à la fêlure. Ça permet de comprendre finalement comment on s'emboîte, comment le monde s'emboîte, et après de produire une théorie sociologique qui est celle de la possibilité de l'emboîtement. Et je pense sincèrement que les gens qui n'ont pas eu ce type de fêlure, mais quand je dis fêlure, qu'on se comprenne bien, c'est pas une fêlure sociale, ça peut être une fêlure affective, ça peut être une fêlure, traumatique, peu importe la nature, vraiment peu importe la nature de la fêlure. Ça peut être une petite bourgeoise, comme on disait à l'époque, qui a une fêlure et qui, à ce titre-là, peut se rapprocher d'un mec comme moi, et qui, par la conversation et l'échange, permet à l'un et à l'autre de mieux comprendre comment les choses s'emboîtent. Voilà. Progressivement, ce qui m'a intéressé, voilà, c'est une sociologie de l'espoir. C'est une sociologie de l'espoir. Moi, j'ai commencé par la sociologie de l'innovation. La sociologie, ça consiste à dire tu es quelque part, socialement parlant. Il y a des situations dans lesquelles on est nulle part. Des situations, des espaces de nulle part. Ça peut être biographique, ça peut être situationnel, comme ça. Alors, quand on est nulle part, c'est-à-dire que, bon, on est toléré. C'est-à-dire, tu fais ce que tu es, mais pas trop. Et tolérance, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de règles, c'est-à-dire que je peux baisser le niveau de tolérance unilatéralement, si je suis le puissant. Hein. Qu'est-ce qu'on fait comment on vit dans ce cas-là? Je pense que c'est vrai pour les intrapreneurs, pour un certain nombre d'entrepreneurs aussi, mais c'est vrai pour des gens qui n'ont pas la bonne culture, ou le bon sexe, ou le bon diplôme, peu importe. On tâtonne. C'est-à-dire que on regarde si le poêle est brûlant ou s'il a refroidi. Petit à petit, on s'aperçoit qu'on n'a même pas besoin de tâtonner. En approchant la main, on sent la chaleur ou le froid. On apprend aussi à comprendre que la brûlure qu'on peut ressentir si le poêle est trop chaud, on peut faire avec. Je crois qu'en fait, les sociologues, on ne fait que théoriser notre expérience sociale, personnelle. Tout le problème, c'est que si on a une expérience sociale assez protégée, assez lisse, on perd le caractère absolument nécessaire de la qualité sociologique qui consiste à observer avant de faire fonctionner un modèle d'analyse, à écouter le plus sérieusement possible avant d'interpréter. Quand on a été protégé du monde, pas seulement parce qu'on est riche, mais peut-être aussi parce qu'on a eu une éducation assez fermée, culturellement parlant, quelle qu'en soit la nature, on ne regarde pas le monde. Et c'est effrayant, un sociologue qui ne doute plus. Un sociologue qui explique que le monde est ainsi fait parce qu'il y a d'une part des salauds et d'une part des malheureux, quoi. C'est pas ça le monde. C'est pas ça le monde. En tout cas, bon, moi j'ai essayé dans mes travaux de montrer que le monde c'était pas ça, qu'on pouvait d'abord inverser son destin en ne respectant pas les règles du jeu. Hein, c'est la problématique des innovateurs. Inverser le destin professionnel en transgressant les règles, mais pour des raisons légitimes. C'est toujours ce qui m'a intéressé. Et du coup, la question que ça pose, c'est quelle est la vraie question sociologique que ça pose, c'est quels sont les critères qu'on va mobiliser pour analyser ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde. On pense que ce qu'il faut, quand on est sociologue ou économiste, c'est dénoncer ce qui va mal, ceux qui produisent le mal, et après mettre en place des programmes politiques et économiques qui vont renverser la table. Personnellement, je ne crois pas en ça. Comme beaucoup d'entre nous, l'idée de révolution me fait frémir, parce que les révolutions n'ont jamais été heureuses, et elles ont toujours été violentes. Je suis descendu ici à la station Robespierre. Bon, Robespierre, pour moi, c'est quand même un être sanguinaire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui considèrent que l'histoire suppose ça, pas moi. Moi, je pense que si on s'intéresse plus à la réalité des pratiques sociales, que ce soit dans un village pour les questions d'écologie, ou dans une organisation pour les questions d'engagement, eh ben, on trouve des trésors de compétences collectives qui ne sont pas exploités. Qui ne sont pas exploités parce que du côté des intellectuels ou des dirigeants d'entreprise, on préfère mobiliser des idées simples qui permettent de ne pas faire l'effort de se mettre dans le terrain. Le travail du sociologue, c'est de dénoncer ce qui voile la réalité des rapports sociaux, ce qu'il fait très bien, mais c'est aussi de dénoncer, dénoncer, c'est-à-dire dénoncer des espaces de jeu, des espaces identitaires, des espaces relationnels qui permettent de surdéterminer les contraintes sociales. Et je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que chacun a sa marge de liberté, qu'on fait ce qu'on veut de sa vie, ce n'est pas ça du tout. Mais que, voilà, dans certains cas, ça ne se passe pas comme ça, et que c'est intéressant d'observer ça pour montrer aux malheureux dominés l'espoir est possible, même si ce n'est pas une trajectoire linéaire. Et encore une fois, l'espoir est possible parce que ce qui nous associe au monde, je l'ai dit qu'une fois, mais je voudrais le souligner, ce qui nous associe au monde, ce n'est pas les classes. Moi, je n'ai pas fait l'expérience de classe. C'est les autres qui se situe entre la classe et nous. Ça peut être un voisin, une voisine, ça peut être une amoureuse, un amoureux, ça peut être un prof, une prof, ça peut être des tas d'autres qui en fait permettent de nous associer entre ce qu'on est individuellement et le reste du monde. Et la sociologie parle très peu de cet espace intermédiaire entre le monde et nous. Et c'est un vrai problème. Il y a des moments où le plaisir, c'est précisément le sentiment de pouvoir participer à la société en tant que ce qu'on est. C'est-à-dire pas seulement s'inscrire dans un rôle, avoir une bonne note, etc. En tant que ce qu'on est. Et j'avais également interviewé une fille tétraplégique qui m'avait raconté un truc extraordinaire. Tétraplégiques, il faut savoir, les tétraplégiques, certains peuvent bouger un peu leurs membres.
Et elle, c'était son cas. Elle bougeait très difficilement sur un fauteuil, elle était. Mais à un moment donné, elle me dit, ce qui m'a procuré une grande satisfaction, c'est d'avoir mon permis de conduire avec une voiture aménagée. Et elle, elle m'explique que du coup, elle, à l'université, elle n'était plus obligée d'attendre l'ambulancier avec des copains pour la tenir, etc., avec son fauteuil, elle rentrait dans la bagnole. Et puis, je l'écoutais avec intérêt, quoi. Je comprenais que le permis de conduire, ça pouvait être important. Et elle me dit, comme ça, j'ai pu aller en boîte de nuit, toute seule. Bon. Alors bon, j'ai l'habitude du métier, je regarde pas mes pompes, mais tout comme, quoi, tu vois, je la regarde, ouais, bon. Et des grands yeux, des beaux yeux comme ça, elle plonge dans mon regard et elle me dit oui, parce que j'avais du succès en boîte de nuit. Alors je lui dis ouais. Et toujours avec ses beaux yeux, elle me dit ça vous étonne. Et à ce moment-là, je me rends compte que je suis un con, que cette fille est absolument désirable, tu vois. Tellement! Tellement il y a d'humanité, de sensualité, tu vois, qui passe dans son regard, dans son expression. Et elle était, alors, elle avait un regard, mais plein d'intelligence et de malice et d'humanité en me disant ça. Je crois que c'est l'un des plus beaux regards que j'ai vu dans les interviews, quoi. Et j'ai eu l'air con, je me suis senti con, et elle l'a senti bien sûr. Combien de femmes et d'hommes arrivent à vivre avec bonheur dans leur couple parce que il s'arrange avec les règles, quelle que soit la nature des règles, quelle que soit la nature des règles, bon, voilà. Et le métier de comptable, et le métier de lycéen, et le métier de comédien, de consultant, voilà, je crois qu'on est... on est tous amenés à vivre dans une, comment dire ça, à vivre avec des pratiques informelles qui permettent, à mobiliser des pratiques informelles, qui permettent de faire société tout en n'étant pas complètement inclus et aspiré par la société. Et je crois que c'est ce que n'accepte pas bien la sociologie dominante. C'est-à-dire qu'on pense que, les gens sont soumis à leur rôle. Non. En fait, il y a, comme le disaient les sociologues américains, il y a une distance au rôle. Et ce qu'ont dit certains d'entre eux, et ce qui me paraît très important, c'est que non seulement il y a une distance au rôle, mais il y a une capacité à transgresser les rôles. Je crois que ce qui permet de faire société, c'est cette masse innombrable d'individus qui rendent la société intelligente parce qu'ils ne respectent pas les places qui leur sont attribuées. Ça, c'est important, mais c'est pareil. On préfère avoir une conception verticale de l'analyse des rapports sociaux, verticale et imperméable à l'interprétation. En fait, on ne cesse d'interpréter les rapports de domination, pour parler en termes de sociologie classique. Ça n'est pas pour autant que les rapports de domination n'existent pas. Il faudrait aussi s'intéresser à ce qui permet d'échapper partiellement, momentanément, sectoriellement, au rapport de domination. Et puis, la société, elle n'est pas que verticale, encore une fois. C'est quels sont les autres auxquels je vais pouvoir m'attacher
pour avoir le sentiment de faire société. Si on prend le temps de perdre du temps avec les gens qui sont au travail, on découvre des trésors de compétences collectives qui généralement ne sont pas connus. Alors, principalement parce que développer de la compétence collective, ça suppose de ne pas faire ce qui est prévu par les règles, et ça, c'est un peu risqué. Et puis, deuxièmement, parce qu'on considère que, de toute façon, les politiques d'organisation ont toujours plus de valeur que les pratiques d'organisation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi que, pour celui qui met en œuvre, que ce soit une politique écologique ou une politique organisationnelle, c'est bien sûr plus avantageux de mettre en place la bonne politique que de dire, ben, comme l'a fait Younous, avant de mettre en place une politique, je vais regarder. Je suis devenu l'œil du ver de terre, c'est-à-dire qu'il était tout à fait dans la terre et il regardait du bas vers le haut pour comprendre la richesse des pratiques des personnes qui travaillaient dans le village. Et je pense que malheureusement, on a assez peu cette capacité à mobiliser l'œil du ver de terre. Et je crois que le vrai problème, comment dire ça, politique, au sens le plus fort du terme, il est là. C'est-à-dire que les élites, quelles qu'elles soient, de gauche ou de droite, intellectuelles, médiatiques ou politiques, bien sûr, elles ont beaucoup de mal à adopter cette posture d'observation qui demande du temps, qui demande du plaisir, voilà, qui demande à éprouver du plaisir à écouter et à observer les autres. Et ça, quand on est quand on a été protégé du monde, pas seulement parce qu'on est riche, mais peut-être aussi parce qu'on a eu une éducation assez fermée, culturellement parlant. Quelle qu'en soit la nature, on ne regarde pas le monde. Là où on ressent son existence sociale, c'est dans un collectif dans lequel on peut partager des valeurs, des liens nourris d'affectivité et pas seulement d'intérêt ou de dimension cognitive. Il faudrait penser la société non pas comme un univers de place, mais un univers de trajectoire. Sinon, on n'y arrivera jamais, quoi. L'égalité, avec en plus... l'égalité, c'est une bonne chose, bien sûr, mais c'est l'égalité des places, ça n'a aucun sens. Ce qui importe, c'est d'arriver à valoriser les trajectoires qui permettent d'avoir une meilleure place. C'est quoi une meilleure place? C'est une place qui correspond à ce qu'on est, à ce qui est valorisé par nos proches. C'est pas nécessairement d'être ingénieur plutôt que technicien. Mais tant qu'on valorisera plus l'ingénieur que le technicien, on n'y arrivera pas. Regardez le débat sur la méritocratie. Vous avez entendu parler. On dit la méritocratie, elle est pleine de problèmes. En fait, c'est la reproduction des élites à travers le discours méritocratique de la République, etc. etc. C'est-à-dire qu'on considère que dans la méritocratie, on considère que les gens considérés comme méritants sont ceux qui sont au sommet de l'échelle de la reconnaissance sociale. Alors, bien sûr, après, on peut dire pique-prendre de la méritocratie, mais on n'en a rien à foutre de faire partie de l'élite. On peut en avoir rien à foutre. Le type qui réussit à faire des belles cultures, à bien entretenir son tracteur,
malgré la pauvreté de son terrain et l'âge de son tracteur, pour moi, il a un mérite considérable, et localement, on va le reconnaître comme tel. Il faudrait s'intéresser aux gens qui ont beaucoup de mérite, parce qu'ils savent faire des très bons gâteaux, réparer des motos comme personne d'autre, etc. Ce débat sur la méritocratie est absolument étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, il a intégré les valeurs qui fondent l'idée de mérite. Et ce ne sont pas des valeurs, comment dire ça, elles ne sont pas alternatives. Et honnêtement, moi, quand je vois, puisqu'on parle du milieu agricole, c'est vrai que des fois, moi, je suis totalement admiratif de paysans qui arrivent aujourd'hui de plus en plus, seuls, à faire fonctionner une exploitation. Voilà, pourquoi on ne parle pas de ces mecs-là? Pourquoi on ne parle pas de ces types qui ont, ou de ces femmes qui ont beaucoup de mérite à construire un morceau de société, à être beau à voir dans leurs gestes, dans leurs regards. C'est ça aussi le mérite, quoi. Et accéder à ça, ça devrait être considéré comme noble, respectable. Ouais, c'est ça. Le plaisir, c'est, je crois, que, enfin, quand on parle de, quand on l'articule avec société, le plaisir, c'est d'arriver à faire quelque chose avec ce qu'on est avec les autres, mais de positif et de valorisant. Voilà.